Histoire de la bête. Le roi, mon père, avant que je vinsse au monde, était mort. La reine ne fut pas consolée de sa perte si l'intérêt de l'enfant qu'elle portait n'eût combattu sa douleur. Ma naissance lui causa une extrême joie. Ce fut à la douceur d'élever le fruit de l'amour d'un époux si chèrement aimé que le bonheur de dissiper son affliction était réservé. Les soins de mon éducation et la peur de me perdre l'occupèrent uniquement. Elle fut secondée dans ses vues par une fée de sa connaissance qui lui marqua n'avoir que l'empressement à me préserver de toutes sortes d'accidents. La reine lui en fut un gré infini, mais elle ne fut pas contente quand elle lui demanda de me remettre entre ses mains. Cette intelligence n'avait pas la réputation d'être bonne. Elle passait pour capricieuse dans ses faveurs. On la craignait plus qu'on ne l'aimait, et quand ma mère eût été même convaincue de la bonté de son caractère, elle ne se serait pas déterminée à me perdre de vue. Cependant, conseillée par des personnes prudentes, de peur d'essuyer les funestes effets du ressentiment de cette fée vindicative, elle ne la refusa pas tout à fait. En me livrant à elle volontairement, il n'y avait pas d'apparence qu'elle me fît du mal. L'expérience avait fait connaître qu'elle ne se plaisait à nuire qu'à ceux de qui elle se croyait offensée. La reine en convenait, et elle n'avait que la répugnance de se voir privée du plaisir de me regarder continuellement avec des yeux de mère, qui la faisait découvrir en moi des grâces que je ne devais qu'à sa prévention. Elle était encore irrésolue sur ce qu'elle avait à faire lorsqu'un voisin puissant crut qu'il lui serait facile de s'emparer des états d'un enfant gouverné par une femme. Il était entré dans mon royaume avec une armée formidable. La reine en leva une à la hâte, et avec un courage au-dessus de son sexe, elle se mit à la tête des troupes et alla défendre nos frontières. Ce fut alors que, forcée de me quitter, elle ne put se dispenser de confier à la fée le soin de mon éducation. Je fus remise entre ses mains, après qu'elle eut fait le serment le plus sacré pour elle, que, sans aucune difficulté, elle me ramènerait à la cour aussitôt que la guerre serait finie, que ma mère comptait être terminée dans un an au plus tard. Mais malgré tous les avantages qu'elle remporta, il ne lui fut pas possible de revoir si tôt notre capitale. Pour profiter de sa victoire, après avoir chassé l'ennemi hors de nos états, elle le poursuivit dans les siens. Elle prit des provinces entières, gagna des batailles et réduisit enfin le vaincu à demander une paix honteuse, qu'il n'obtint qu'à des conditions fort dures. Après ces heureux succès, la reine partit triomphante et goûta davantage le plaisir de me revoir. Mais ayant appris sur la route que, contre la loi des traités, l'indigne ennemi avait fait égorger nos garnisons et repris presque toutes les places qu'il avait été obligé de céder, elle fut contrainte de retourner sur ses pas. L'honneur l'emportait sur l'empressement qui la rappelait auprès de moi, et elle forma la résolution de ne point finir la guerre, qu'elle n'eût mis son ennemi hors d'état de lui faire de nouvelles trahisons. Le temps qu'elle employa à cette seconde expédition fut fort considérable. Elle s'était flattée que 2 ou 3 campagnes suffiraient, mais elle avait à combattre contre un adversaire aussi habile que fourbe. Il eut l'industrie de faire révolter les provinces ou de débaucher des bataillons entiers, ce qui força la reine à ne pas s'éloigner de son armée pendant 15 ans. Elle ne pensa point à m'appeler auprès d'elle. Elle se flattait toujours d'être à son dernier mois d'absence et sur le point de venir me revoir. Cependant, la fée, conformément à sa parole, avait donné tous les soins pour mon éducation. Depuis le jour qu'elle m'avait reconduit dans mon royaume, elle était restée auprès de moi et n'avait cessé de me donner des marques de son affection et de son attention sur ce qui concernait ma santé et mes plaisirs. Par mon respect Je lui marquai combien j'étais sensible à ses bontés. J'avais pour elle les mêmes égards et les mêmes empressements que j'eusse pour ma mère, et la reconnaissance m'inspirait en sa faveur des sentiments aussi tendres. Pendant quelque temps, elle parut satisfaite. Mais elle fit un voyage de quelques années dont elle ne me communiqua point les secrets, et à son retour, admirant l'effet de ses soins, elle conçut pour moi une tendresse différente de celle d'une mère. Elle m'avait permis de lui donner ce nom, mais alors elle me le défendit. J'obéis sans m'informer des raisons qu'elle pouvait avoir, ni la soupçonner de ce qu'elle exigeait de moi. Je voyais bien qu'elle n'était pas contente. Mais pouvais-je imaginer la raison des plaintes qu'elle me faisait sans cesse sur mon ingratitude? J'étais d'autant plus surpris de ses reproches que je ne croyais pas les mériter. Ils étaient toujours suivis ou précédés des plus tendres caresses. J'avais trop peu d'expérience pour les entendre. Il fallut qu'elle s'expliquât. Elle le fit un jour, que je lui témoignai un chagrin mêlé d'impatience, touchant le retardement de la reine. Elle m'en fit quelques reproches, et sur ce que j'assurais que ma tendresse pour ma mère n'altérait en aucune manière celle que je lui devais, elle me répondit qu'elle n'en était point jalouse, quoiqu'elle eût fait beaucoup pour moi et qu'elle eût résolu de faire encore davantage. Mais elle ajouta que pour donner un libre cours au dessein qu'elle formait en ma faveur, il fallait que je l'épousasse, qu'elle ne voulait pas être aimée de moi comme une mère, mais comme une amante, qu'elle ne doutait pas que je ne reçusse sa proposition avec reconnaissance et que je n'eusse beaucoup de joie à l'accepter. Qu'il n'était donc point question que de m'abandonner au plaisir que devait me causer la certitude de posséder une si puissante fée qui me garantirait tous les dangers et me procurerait une vie pleine de charme et comblée de gloire. À cette proposition, je fus embarrassée. Élevée dans mon propre pays, je connaissais assez le monde pour avoir observé parmi les personnes mariées qu'il y en avait d'heureuses par la conformité d'âge et d'humeur, et d'autres très à plaindre, parce que des circonstances différentes avaient mis entre elles une antipathie qui pouvait faire leur supplice. La fée vieille, laide et d'un caractère hautain ne me faisait pas espérer une destinée aussi agréable qu'elle me la promettait. J'étais bien éloignée de sentir pour elle ce qu'il faut sentir pour une personne avec qui l'on veut passer agréablement sa vie. Je ne voulais pas d'ailleurs m'engager dans un âge si avancé. Je n'avais d'autre passion que celle de revoir la reine et de me signaler à la tête des armées. Je soupirais après ma liberté, c'était la seule chose qui me pouvait flatter, la seule qu'elle me refusait. Je l'avais souvent supplié de me permettre d'aller partager les périls où je savais que la reine se précipitait pour mes intérêts. Mais mes prières jusqu'à ce jour furent inutiles. Pressée de répondre à l'étonnante déclaration qu'elle me faisait, je fus embarrassée. Je la fis ressouvenir qu'elle m'avait souvent dit qu'il ne m'était pas permis de disposer de moi sans les ordres de ma mère et pendant son absence. « C'est comme je l'entends, » reprit-elle. « Je ne voudrais pas vous obliger d'en user autrement. Il me suffit que vous en rapportiez à la reine. Je vous avais déjà dit, belle princesse, que je n'avais pu obtenir de cette fée la liberté d'aller trouver la reine-mère. Le désir qu'elle avait d'avoir son contentement, qu'elle s'attendrait d'obtenir, l'obligea de m'accorder, sans même lui demander ce qu'elle m'avait toujours refusé. » Mais elle y mit une condition qui ne me fut pas agréable. Ce fut de m'accompagner. Je fis mes efforts pour l'en détourner. Il me fut impossible. Et nous partîmes, suivis d'une nombreuse escorte. Nous arrivâmes la veille d'une affaire décisive. La reine avait mis les choses si bien en état que le lendemain devait décider du sort de l'ennemi qui n'avait plus de ressources s'il perdait cette bataille. Ma présence, causant dans le camp un extrême plaisir, ne fit qu'augmenter le courage des troupes, qui, de mon arrivée, tirèrent un augure favorable pour la victoire. La reine en pensa mourir de joie. Mais après ce premier transport, le plaisir qu'il avait causé fit place aux plus vives alarmes. Pendant que je me flattais du doux espoir d'acquérir de la gloire, la reine frémissait à la vue du danger où j'allais m'exposer. Trop généreuse pour vouloir m'en détourner, elle me pria au nom de toute sa tendresse de me ménager autant que l'honneur pourrait le permettre. Elle supplia la fée de ne pas m'abandonner en cette occasion. Ses sollicitations n'étaient pas nécessaires. La trop susceptible intelligence appréhendait autant que la reine, parce qu'elle n'avait point de secret pour me préserver des hasards de la guerre. Au reste, en m'inspirant dans un instant l'art de commander une armée et la prudence convenable pour un si grand emploi, elle fit beaucoup. Les chefs les plus expérimentés m'admirèrent. Devenu maître du champ de bataille, la victoire fut complète. J'eus le bonheur de sauver la vie à la reine et d'empêcher qu'elle ne fût prisonnière de guerre. Les ennemis furent poursuivis avec tant de vigueur qu'ils abandonnèrent leur camp, perdirent leur bataille et plus de trois quarts de leur armée, tandis que nous n'avions fait qu'une perte très médiocre. Une légère blessure que je reçus fut le seul avantage dont l'ennemi put se vanter. Mais cet événement, faisant craindre à la reine que si la guerre continuait, il ne m'arriva de plus grand malheur, malgré les vœux de toute l'armée, de qui ma préférence avait redoublé la fierté, elle fit la paix, à des conditions même plus avantageuses que les vaincus n'eussent osé espérer. Peu de temps après, nous reprîmes le chemin de la capitale où nous entrâmes en triomphe. Les occupations de la guerre et la présence éternelle de ma vieille conquête m'avaient empêché de prévenir la reine sur cet incident. Elle eut la surprise entière lorsque cette mégère lui dit sans détour qu'elle était résolue de m'épouser incessamment. Cette déclaration se fit dans ce même palais, non pas aussi superbe qu'il l'est aujourd'hui. C'était la maison de plaisance du feu roi, à l'embellissement de laquelle mille occupations n'avaient pu lui permettre de penser. Ma mère, qui chérissait ce qu'il avait aimé, le choisit par préférence pour y délaisser des fatigues de la guerre. À la déclaration de la fée, ne pouvant se rendre maîtresse de son premier mouvement et ne sachant pas l'art de feindre, elle s'écria « Songez-vous, madame, au bizarre assortiment que vous me proposez ? Il est vrai qu'il était impossible d'en trouver un plus ridicule. » Outre la vieillesse presque décrépite de la fée, elle était laide à faire peur. Ce n'étaient pas les années qui l'avaient enlaidie. Si elle eût eu de la beauté dans sa jeunesse, elle aurait pu la conserver par le secours de son art. Mais laide naturellement, sa puissance ne lui pouvait donner des beautés artificielles pour plus d'un jour tous les ans. Et ce jour passé, elle redevenait dans son premier état. La fée fut surprise de la déclaration de la reine. Son amour-propre lui cachait tout ce qu'elle avait d'affreux, et elle comptait que sa puissance devait suppléer aux appâts dont elle était dépourvue. « Qu'entendez-vous ? » dit-elle à la reine, par ce terme de « bizarre assortiment ». Songez qu'il y a de l'imprudence à m'en faire souvenir lorsque je daigne l'oublier. Vous ne devez penser qu'à vous féliciter d'avoir un fils assez aimable pour que son mérite me fasse préférer au plus puissant génie de tous les éléments. Et puisque je daigne m'abaisser jusqu'à lui, recevez avec respect l'honneur que j'ai la bonté de vous faire, sans me donner le temps de m'en dédire. » La reine, aussi fière que la fée, n'avait jamais compris qu'il y eût un rang au-dessus du trône. Elle faisait peu de cas de l'honneur prétendu que lui offrait l'intelligence. Ayant toujours commandé à ce qui l'approchait, elle n'ambitionnait point l'avantage d'avoir une belle fille à qui il fallut rendre des respects. Ainsi, loin de répondre, elle resta comme immobile et se contenta d'avoir les yeux fixés sur moi. J'étais aussi surpris qu'elle, et la regardant du même air qu'elle me regardait, il ne fut pas difficile à la fée de connaître que notre silence exprimait naïvement des sentiments fort opposés à la joie qu'elle voulait nous inspirer. « Que signifie ce que je vois ? » dit-elle avec aigreur. « D'où vient que la reine et le fils ne disent rien ? Cette agréable surprise vous a-t-elle enlevé l'usage de la voix ? Ou seriez-vous assez aveugle et assez téméraire pour ne pas accepter mes offres ?»« Parlez, prince, » me dit-elle. « Serez-vous assez ingrat et assez imprudent pour mépriser ma bonté ? Ne consentez-vous pas dès ce moment à me donner la main ?»« Non, madame, je vous assure, » repris-je avec précipitation. « Quoiqu'ai-je une sincère reconnaissance de ce que je vous dois, je ne puis me résoudre à m'en acquitter de cette sorte, et avec la permission de la reine, je ne veux pas sitôt perdre ma liberté. Donnez-moi tout autre moyen de reconnaître vos bontés, je n'en trouverai point d'impossible. Mais pour celui que vous me proposez, dispensez-moi, s'il vous plaît, de l'employer, car... » « Comment ? Chétive créature ! » interrompit-elle avec fureur. « Tu oses me résister ? Et vous, stupide reine ! Vous voyez sans indignation un tel orgueil ? Que dis-je ? Sans indignation ? C'est vous-même qui l'autorisez ! Puisque c'est dans vos regards insolents qu'il a puisé l'audace de me répondre !» La reine, déjà piquée des expressions méprisantes dont la fée s'était servie, ne fut plus maîtresse de se contenir, et jetant par hasard les yeux sur une glace devant laquelle nous étions dans les temps que cette fée méchante la pressait encore. « Que puis-je vous dire ? » reprit-elle. « Que vous n'eussiez dû vous représenter vous-même. » Daignez donc considérer sans prétention les objets que cette glace vous présente. Elle vous répondra pour moi. » La fée comprit aisément ce que la reine voulait dire. « C'est donc la beauté de ce précieux fils qui vous rend si vaine, » lui dit-elle, « et c'est ce qui m'expose à un refus honteux. Je vous parais indigne de lui. Eh bien, » poursuivit-elle en élevant sa voix d'un ton furieux, après avoir donné tous mes soins à le rendre si charmant, il faut que je couronne mon ouvrage et que je vous donne à tous deux une matière aussi nouvelle que sensible pour vous faire souvenir de ce que vous me devez. « Va, malheureux, » me dit-elle, « vante-toi de m'avoir refusé ton cœur et ta main, et fais-en le sacrifice à celle que tu trouveras être plus digne de toi. » En disant ces mots, ma terrible amante me donna un coup sur la tête. Il fut si pesant que je tombai la face contre terre et que je me crus accablé de la chute d'une montagne. Tout courroucé de cette insulte, je voulus me relever, mais il m'en fut impossible. Le poids de mon corps était si lourd qu'il m'empêcha tout ce que je pus faire, fut de me soutenir sur mes mains, devenues en un instant d'horribles pattes, dont la vue me fit apercevoir de mon changement. C'est le même sous lequel vous m'avez trouvé. Dans l'instant, je jetai les yeux sur la fatale glace, et il ne me fut pas permis de douter de ma cruelle et subite métamorphose. La douleur que j'en ressentis me rendit immobile. La reine, à ce tragique spectacle, fut hors d'elle-même. Pour mettre le dernier sceau à la barbarie, cette furieuse fée me dit encore d'un air moqueur « Va faire des conquêtes illustres et plus dignes de toi qu'une auguste fée. Et comme on n'a point besoin d'esprit quand on est aussi beau, je t'ordonne de paraître aussi stupide que tu es affreux, et d'attendre dans cet état, pour reprendre ta première forme, qu'une fille belle et jeune vienne volontairement te trouver, quoiqu'elle soit persuadée que tu la doives dévorer. Il faut aussi, continua-t-elle, qu'après qu'elle ne craindra plus pour sa vie, elle prenne une assez tendre affection pour te proposer de l'épouser, jusqu'à ce que tu rencontres cette rare personne. « Je veux que tu sois un sujet d'horreur pour toi-même et pour tous ceux qui te verront. Pour vous, trop heureuse mère d'un si aimable enfant, » dit-elle à la reine, « je vous avertis que si vous déclarez à quelqu'un que ce monstre est votre fils, il ne changera jamais de figure. C'est sans le secours de l'intérêt, de l'ambition et des charmes de son esprit qu'il la doit quitter. Adieu. Ne vous impatientez point, vous n'attendrez pas longtemps. Il est assez mignon pour rencontrer bientôt un remède à ses maux. Ah, cruel ! S'écria la reine. Si mon refus vous a offensé, vengez-vous sur moi. Prenez ma vie, mais ne détruisez pas votre ouvrage, je vous en conjure. Vous n'y pensez pas, grande princesse ? Reprit la fée d'un ton ironique. Vous vous abaissez trop. Je ne suis pas assez belle pour que vous daigniez m'entretenir. Mais je suis ferme dans mes volontés. Adieu, puissante reine. Adieu, beau prince. Il n'est pas juste que je vous fatigue davantage de mon odieuse présence. Je me retire, mais il me reste encore la charité de t'avertir. En se tournant de mon côté, il faut oublier qui tu es. Si tu te laisses flatter par de vains respects ou par des titres fastueux, tu es perdu sans ressources. Et tu te perds encore si tu oses faire usage de ton esprit pour plaire dans la conversation. Après ces mots, elle disparut et nous laissa la reine et moi dans un état qui ne se peut ni décrire ni imaginer. Les plaintes sont la consolation des malheureux. C'était pour moi un trop faible secours. Ma mère prit le parti de se poignarder et moi d'aller me précipiter dans le canal voisin. Nous allions l'un et l'autre, sans nous l'être communiqué, exécuter un si funeste dessein. Mais une personne d'une taille majestueuse et dont l'air inspirait un respect profond vint nous faire connaître qu'il y a de la lâcheté à succomber aux plus grands accidents et qu'avec du temps et du courage, il n'est point d'infortune qu'on ne puisse vaincre. Mais la reine était inconsolable. Ses yeux versaient abondamment des larmes. Et, ne sachant comment apprendre à ses sujets que leur souverain était changé en une horrible bête, elle n'avait pour unique ressource qu'un désespoir affreux. La fée, car c'en était une, et la même que vous voyez ici, sachant et sa douleur et son embarras, la fit souvenir de l'obligation indispensable où elle était de cacher à ses peuples cette effroyable aventure. Elle lui remontra que, sans s'abandonner au désespoir, il valait mieux chercher un remède à ses maux. « En est-il ? » s'écria la reine. « Qui soit assez puissant pour empêcher que les volontés d'une fée n'aient leur exécution ?»« Oui, madame, » répondit l'autre fée. « Il y a des remèdes à tout. Je suis fée, comme celle de qui vous venez d'éprouver la fureur. Je n'ai pas moins de pouvoir. Il est vrai que je ne puis réparer à l'instant le mal qu'elle vous a fait, car il ne nous est pas permis de nous opposer directement à la volonté des unes et des autres. Celle qui est cause de votre infortune a plus vécu que moi. Parmi nous, l'ancienneté est un titre respectable. » Comme elle n'a pu s'empêcher de mettre une condition qui peut faire cesser le charme funeste, je vous y servirai. J'avoue qu'il est difficile de terminer cet enchantement, mais la chose ne me paraît pas impossible. En y donnant tous mes soins, voyons ce que je puis faire pour vous. » Alors, elle tira un livre de sa robe, et après avoir fait quelques pas mystérieux, elle s'abattit devant une table et lut pendant un temps considérable, avec une application qui la faisait suer. Ensuite, elle ferma son livre et rêva profondément. Elle avait un air si sérieux qu'elle nous donna lieu de croire pendant quelque temps que mon malheur était irréparable. Mais revenue de son extase et sa physionomie reprenant sa beauté naturelle, elle nous apprit qu'elle avait un remède à nos maux. « Il sera lent, » me dit-elle, « mais il sera certain. » Gardez votre secret, qu'il ne transpire pas, et qu'aucun ne sache que vous êtes caché sous cet horrible déguisement, car vous ne m'ôteriez le pouvoir de vous en délivrer. Votre ennemi se flatte que vous le divulguerez. C'est pour cela qu'elle ne vous a pas ôté l'usage de la parole. La reine trouva cette condition impossible, parce que deux de ses femmes avaient été présentes à cette fatale aventure, et qu'elles étaient fort toutes effrayées, ce qui n'aurait pas manqué d'exciter la curiosité des gardes et des courtisans. Elle s'imaginait que toute sa cour en était informée. et que son royaume, et même tout l'univers, en serait bientôt instruit. Mais la fée savait un moyen pour empêcher que ce mystère n'éclatât. Elle fit alors quelques tours, tantôt gravement, quelquefois précipitées. Elle y joignit des mots que nous ne comprîmes pas, et finit par lever la main de l'air d'une personne qui commande avec un pouvoir absolu. Ce geste, joint à ce qu'elle avait prononcé, fut si puissant que tous ceux qui respiraient dans ce château devinrent immobiles et furent changés en statues. Ils sont encore dans le même état. Ce sont les figures que vous voyez en différents lieux et dans les mêmes attitudes où les ordres pressants de la fée les ont surpris. La reine, qui dans ce moment jeta les yeux sur la grande cour, s'aperçut du changement d'un nombre prodigieux de personnes. Le silence qui succéda tout d'un coup à l'agitation d'un grand peuple fit naître en son cœur des mouvements de compassion pour tant d'innocents qui perdaient la vie à cause de moi. Mais la fée la rassura en lui disant qu'elle ne laisserait ses sujets en cet état qu'autant que leur discrétion serait nécessaire. C'est une précaution dont il fallait user, mais elle promit qu'elle les dédommagerait et que le temps qu'ils passeraient ainsi ne serait pas compté sur leurs jours. Ils rajeuniront d'autant, ainsi que votre pitié cesse, dit la fée à la reine. Laissons-les ici avec votre fils. Il y sera en sûreté, parce que je viens d'élever des brouillards si épais aux environs de ce château qu'il sera impossible d'y pénétrer que lorsque nous jugerons à propos. Je vais vous remettre, continua-t-elle, où votre présence est nécessaire. Vous avez à craindre des mouvements de la part de vos ennemis. Ayez soin de publier que la fée qui a élevé votre fils l'a retenu auprès d'elle pour un important dessein et qu'elle a gardé toutes les personnes qui vous ont suivi. Ce ne fut pas sans répandre des larmes que ma mère se vit obligée de me quitter. La fée lui renouvela les assurances de veiller toujours sur moi et lui protesta que je n'avais qu'à souhaiter pour accomplir mes désirs. Elle ajouta que mes malheurs finiraient, pourvu qu'elle ou moi n'y mettions pas d'obstacle par quelque trait d'imprudence. Toutes ces promesses ne furent pas capables de consoler ma mère. Elle eût désiré rester auprès de moi et laisser à la fée ou à celui qu'elle jugerait le plus digne le soin de gouverner son royaume. Mais les fées commandent avec empire et veulent qu'on leur obéisse. Ma mère, craignant par un refus d'augmenter mes infortunes et de me priver des secours de cette intelligence bienfaisante, consentit à tout ce qu'elle exigea d'elle. Elle vit arriver un beau char. Il était tiré par les mêmes cerfs blancs qui l'ont amené aujourd'hui. La fée fit monter la reine auprès d'elle. À peine eut-elle le temps de m'embrasser, ses intérêts l'appelaient ailleurs, et elle était avertie qu'un plus long séjour dans ces lieux m'aurait nui. Elle fut conduite avec une vitesse extraordinaire où son armée était campée. On n'y fut point étonné de la voir arriver dans cet équipage. Chacun la croyait avec la vieille fée parce que celle qui l'accompagnait ne se fit pas connaître et repartit aussitôt. Ce fut pour se rendre dans ces lieux que dans un instant, elle embellit de tout ce que son art et son imagination lui purent fournir. Cette obligeante fée me permit d'y ajouter encore tout ce qui me ferait plaisir, et après avoir fait pour moi tout ce qu'elle pouvait, elle me quitta en m'exhortant à prendre courage et en me promettant de venir de temps en temps m'instruire des espérances qu'elle avait conçues en ma faveur. Je paraissais être seule dans le palais, cependant je ne l'étais que par les yeux. On me servait comme au milieu de ma cour, et mes occupations furent à peu près les mêmes que celles que vous eûtes dans la suite. Je lisais, j'allais au spectacle, je cultivais un jardin que j'avais fait en m'amusant, et les agréments me suivaient dans tout ce que j'entreprenais. Ce que je plantais ne mettait pas plus d'un jour à acquérir sa perfection. Il n'en a pas fallu davantage au berceau de Rose à qui je dois le bonheur de vous voir ici. Ma bienfaitrice me venait voir fort souvent. Ses promesses et sa présence adoucissaient mes peines. La reine, par son moyen, avait de mes nouvelles et j'avais des siennes. Un jour, je vis arriver la fée. La joie brillait dans ses yeux. Elle me dit « Cher prince, le moment de votre bonheur approche. » Alors elle m'apprit que celui que vous croyez votre père avait passé la nuit fort mal à son aise dans la forêt. Elle me rendit compte, en peu de mots, de l'avenir qui l'avait fait mettre en chemin, sans m'instruire de la vérité de votre alliance. Elle m'apprit que ce bonhomme était forcé de venir chercher un asile contre les maux qu'il avait endurés depuis 24 heures. « Je vais, » me dit-elle, « donner un ordre pour sa réception. Il faut qu'elle soit agréable. Il a une fille charmante. Je prétends que ce soit elle qui vous délivre. J'ai fait attention aux conditions que ma cruelle compagne a mises à votre désenchantement. C'est un bonheur de ce qu'elle n'a pas ordonné que celle qui doit vous délivrer vienne ici par amour pour vous. Au contraire, elle a dit qu'elle devait craindre la mort et même s'y exposer volontairement. J'imagine un moyen pour l'obliger à cette démarche. Ce sera de lui faire croire que la vie de son père est en danger et qu'elle n'a point d'autre moyen de le sauver. Je sais que, pour ne point causer de dépenses à ce vieillard, elle ne lui a demandé qu'une rose, tandis que les sœurs l'ont accablée de commissions indiscrètes. Lorsqu'il en trouvera l'occasion favorable, il la satisfera. Cachez-vous sous le berceau, et le satisfaisant dès qu'il aura commencé à cueillir des roses, faites-lui craindre que la mort ne soit la punition de son audace, à moins qu'il ne vous donne une de ses filles. Ou plutôt qu'elle ne se donne elle-même, suivant l'ordre prescrit par notre ennemi. Cet homme, outre celle que je vous destine, a 5 autres filles. Aucune d'elles n'est assez généreuse pour racheter les jours de leur père au prix de la sienne. La seule belle est capable de cette grande action. J'exécutai exactement les ordres de la fée. Vous savez, belle princesse, quel en fut le succès. Le marchand, pour sauver sa vie, me promit ce que je lui demandais. Je le vis partir, sans pouvoir me persuader qu'il reviendrait avec vous. Je le désirais, et je n'osais m'en flatter. Que de maux j'ai souffert pendant tout le mois qu'il me demanda. Je ne désirais d'en voir la fin que pour être plus certain de mon malheur. Je ne pouvais m'imaginer qu'une jeune femme, belle et aimable, eût le courage de venir chercher un monstre dont elle croyait devenir la proie. Quand elle eut assez de fermeté, il fallait qu'elle demeurât avec moi, sans qu'il lui fût permis de se repentir de sa démarche, et cela me paraissait un obstacle invincible. D'ailleurs, comment aurait-elle pu supporter ma présence sans mourir de frayeur? Je passai ma misérable vie au milieu de ces tristes réflexions, et jamais je ne fus plus à plaindre. Cependant, le mois s'écoula, et ma protectrice m'annonça votre arrivée. Vous vous souvenez sans doute de la pompe avec laquelle vous fûtes reçue. N'osant par les discours vous marquer ma joie, pour vous en donner des marques, j'empruntai le secours de la magnificence. La fée, pleine d'attention pour moi, me défendit de me faire connaître. Quelque frayeur que je puisse vous inspirer, ou quelque bonté que vous me témoignassiez. Il ne m'était pas permis de chercher à vous plaire, ni de vous marquer de l'amour, et enfin de me découvrir. Je ne pouvais que me retrancher sur une excessive bonté, car par bonheur la maligne fée avait oublié de me défendre de vous en donner des preuves. Cette loi me parut dure, mais il m'y fallut souscrire, et je formai la résolution de me présenter devant vous que quelques moments par jour, de fuir les conversations liées pour empêcher que mon cœur ne se livrât à la tendresse. Vous arrivâtes, charmante princesse, et le premier coup d'œil que je jetai sur vous produisit en moi un effet tout opposé à celui que ma monstrueuse figure devait faire en vous. Vous voir et vous aimer à l'instant fut la même chose pour moi. N'entrant que tremblant dans votre appartement, ma joie fut excessive de voir que vous souteniez ma vue d'un air plus intrépide que je ne la soutenais moi-même. Vous me fîtes un plaisir infini quand vous me déclarâtes que vous vouliez bien demeurer avec moi. Par un effet de l'amour qui me suivait jusque sous les plus épouvantables formes, je crus m'apercevoir que vous ne me trouviez pas aussi hideux que vous ne vous y étiez attendu. Votre père partit content, mais ma douleur redoublait lorsque je pensais que je ne devais vous plaire que par la seule bizarrerie de votre goût. Votre maintien, vos discours aussi sages que modestes, tout en vous me faisait connaître que vous n'agissiez que par des principes que la raison et la vertu vous dictaient. C'est ce qui ne me permettait pas de me flatter de l'espérance d'un heureux caprice. J'étais au désespoir de ne pouvoir employer auprès de vous d'autres termes que ceux que la fée m'avait dictés et qu'elle avait choisis exprès, bas et puérils. En vain, je lui représentais qu'il n'était pas naturel que vous acceptassiez la proposition de coucher avec moi. À cela, elle ne me répondit rien autre chose que « Patience, persévérance, où tout est perdu. » Pour vous dédommager de ma ridicule conversation, elle m'assura qu'elle allait vous donner toute forme de plaisir et à moi l'avantage de vous voir continuellement, sans vous épouvanter et sans être forcée de vous dire des impertinences. Elle me rendait invisible et j'avais la satisfaction de vous voir servir par des esprits qui l'étaient d'eux-mêmes ou qui se montraient à vous sous diverses formes d'animaux. Bien plus, la fée, en dirigeant vos songes, vous faisait voir ma figure la nuit en idées et le jour par mes portraits et me faisait vous parler par la voix des songes comme je pensais et comme je vous aurais parlé moi-même. Vous sûtes confusément mon secret et mes espérances qu'elle vous invitait de remplir et par le moyen d'un miroir constellé, j'étais témoin de vos conversations et j'y voyais tout ce que vous vous imaginiez dire ou tout ce que vous pensiez. Cette situation ne suffisait pas pour me rendre heureux. Je ne l'étais qu'en songe, et mes infortunes étaient réelles. L'amour extrême que vous m'aviez inspiré m'obligeait à me plaindre de la contrainte où je vivais. Mais mon état fut bien plus triste quand je m'aperçus que ces beaux lieux n'avaient plus de charme pour vous. Je vous voyais verser des larmes qui me perçaient le cœur et pensèrent me perdre. Vous me demandâtes si j'étais seule ici. Peu s'en fallut qu'abandonnant ma feinte stupidité, je ne vous fisse des serments pour vous en assurer. Ils eussent été dans des termes dont vous auriez été étonné, et ils vous eussent fait soupçonner que je n'étais pas si grossier que je voulais le paraître. J'allais même vous le faire connaître lorsque la fée invisible pour vous s'offrit à mes regards. Par son air menaçant qui m'épouvanta, elle trouva le secret de me faire taire. De quel moyen, ô ciel, se servit-elle pour m'imposer silence? Elle s'approcha de vous le poignard à la main et me fit signe que le premier mot que je prononcerai vous coûterait la vie. J'en fus si effrayée que je repris naturellement la stupidité qu'elle m'ordonna d'affecter. Je n'étais pas au bout de mes peines. Vous me témoignâtes avoir envie d'aller chez votre père. Je vous le permis sans balancer. Pouvais-je vous refuser quelque chose? Mais je regardais votre départ comme le coup de la mort. Et, sans les soins de la fée, j'y aurais succombé. Pendant votre absence, cette généreuse intelligence ne m'abandonna point. Elle me préserva de ma propre fureur. Je m'y serais livrée, n'osant me flatter que vous revinssiez. Le temps que vous aviez passé dans ce palais rendait mon premier état plus insupportable qu'il ne l'avait été d'abord, puisque je me trouvais le plus malheureux de tous les hommes, sans espérance de pouvoir vous le faire connaître. La plus douce de mes occupations était de parcourir les lieux où vous alliez le plus souvent, mais mon chagrin redoublait en ne vous y voyant plus. Les soirs et les heures où j'avais le plaisir de vous entretenir un moment redoublaient mon affliction et m'étaient encore plus cruels. Ces 2 mois, les plus longs de ma vie, finirent enfin et je ne vous vis point revenir. Ce fut alors que mon malheur se trouva à son dernier période et que la puissance de la fée fut trop faible pour me garantir de succomber à mon désespoir. Les précautions qu'elle prit pour m'empêcher d'attenter à ma vie furent inutiles. J'avais un surmoyen qui excédait son pouvoir, c'était de ne plus prendre de nourriture. Par la force de son art, elle eut encore la puissance de me soutenir quelque temps. Mais ayant épuisé tous ses secrets sur moi, je m'affaiblissais peu à peu. Enfin, je n'avais plus qu'un moment à vivre quand vous vîntes m'arracher à la mort. Vos précieuses larmes, plus efficaces que tous les cordiaux des génies déguisés, retinrent mon âme prête à sortir. En connaissant par vos plaintes que je vous étais chère, je goûtais une félicité parfaite, et elle fut à son comble lorsque vous m'acceptâtes pour époux. Cependant, il ne me fut pas encore permis de vous découvrir mon secret, et la bête fut obligée de se coucher auprès de vous sans oser vous faire connaître le prince. Je fus à peine sur votre lit que mes impatiences cessèrent. Aussitôt, je tombai dans une léthargie qui n'a fini qu'à l'arrivée de la fée et de la reine. En m'éveillant, je me suis trouvée telle que me voilà, sans pouvoir dire de quelle sorte mon changement s'était fait. Vous avez été témoin du reste, mais vous n'avez pu juger qu'imparfaitement de la douleur que me conçoit l'opiniâtreté de ma mère, qui s'opposait à un hymen si juste et si glorieux pour moi. J'étais résolue, princesse, à redevenir plutôt bête que de perdre l'espoir d'être l'époux d'une personne si vertueuse et si charmante. Quand le secret de votre naissance eut toujours été pour moi un mystère, la reconnaissance et l'amour ne m'auraient pas moins fait sentir qu'en vous possédant, je ferais le plus heureux de tous les hommes.